protéger la propriété intellectuelle de nos industriels.
Le droit d'auteur.
Technology intellectual property.
R2PI. R2PI, le podcast de la propriété intellectuelle.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur R2PI, votre podcast de propriété intellectuelle. Ici, on parle de pays, on en parle entre amis, mais surtout, on vous en parle. Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode spécial enregistré en marge du congrès annuel de l'IPPI. L'IPPI a pour particularité d'être une association consacrée au développement et à l'amélioration des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Les différents comités des différents groupes se réunissent pour discuter de sujets, de questions ayant une certaine importance pour le droit de l'API au niveau international. Nous allons voir comment ces sujets sont élaborés avec Maître Éléonore Gaspard et Maître Guillaume Henry. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Pourriez-vous peut-être vous présenter et nous indiquer depuis quand à peu près vous êtes membre de l'IPPI ?
Bonjour, Éléonore Gaspard, je suis membre du groupe français de l'IPPI depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. J'ai commencé à venir au congrès systématiquement depuis Hyderabad en 2012. J'ai été président du groupe français et maintenant, au sein de l'IPPI, je suis chair du Standing Committee sur les marques et membre du comité des programmes.
Et donc moi, je suis Guillaume Henry. Je suis membre de l'IPPI, je pense, depuis 2006 ou 2007. Le premier congrès auquel j'ai participé, c'était à Boston en 2008. Et depuis, voilà, j'ai toujours participé au congrès. Je suis actuellement second vice-rapporteur général de l'IPPI.
D'accord, merci beaucoup. Pourriez-vous nous expliquer un peu brièvement quelles sont vos missions au sein de l'association ?
Donc au sein de l'association, en tout cas au sein du comité des programmes, notre mission est de sélectionner les sujets d'intérêt qui vont pouvoir être discutés. Donc, il s'agisse des study questions, les quatre grandes questions qui doivent donner lieu à des résolutions ou les sujets des réunions de travail, de ce qu'on appelle les plenary sessions.
La mission au sein de l'IPPI de l'équipe du rapporteur général, en fait, c'est d'organiser l'ensemble des travaux scientifiques de l'association, c'est-à-dire d'une part les questions qui sont à l'étude et puis d'autre part lors des congrès, d'organiser l'ensemble des conférences qui sont organisées à cette occasion.
D'accord, donc vous avez évoqué les questions. Qui sont finalement à l'initiative de ces questions ? Les membres mêmes, les standing committees, les groupes nationaux ?
Donc les questions peuvent être proposées par qui est intéressé, qui a un intérêt. Principalement, les propositions viendront des standing committees dans leur matière et des groupes nationaux. Agréable d'avoir des sujets avec des explications qui permettent ensuite au comité des programmes d'abord de comprendre exactement quel était le but de la question et si ça peut donner lieu à une résolution et puis de pouvoir se prononcer et sélectionner les différents sujets.
Et en fait, les sujets qu'on essaye de mettre à l'ordre du jour, il y a plusieurs critères. L'un d'entre eux, c'est des sujets qui ont une vocation universelle parce que les résolutions, elles ne s'appliquent pas à un droit, ni même à une région, mais elles ont vocation à s'appliquer dans le monde entier. Donc ça, c'est un premier critère. Un second critère, c'est l'actualité, parce qu'on essaie aussi, pas forcément de coller pour toutes les questions à l'actualité, mais s'il y a des sujets qui sont très importants pour la propriété intellectuelle et qui émergent, on essaie de les traiter. Et puis, le dernier critère, je dirais, c'est des critères de fond. Parce qu'on est une association scientifique et donc on essaie de trouver des sujets qui sont vraiment sur des éléments clés de la protection. C'est-à-dire, par exemple, les conditions de protection d'une marque, les conditions d'une protection d'un brevet, les exceptions, le régime, etc.
D'accord, donc on va prendre en compte l'intérêt de la matière avant l'intérêt de chaque État prise individuellement. Pouvez-vous nous expliquer peut-être pourquoi avez-vous choisi la question de la responsabilité des plateformes en question transversale pour cette année ?
Alors c'était du coup une, peut-être on peut revenir, on vous a pas dit je crois que les quatre questions qui sont étudiées chaque année portent sur les brevets, les marques, le droit d'auteur et les dessins et modèles ou une question transversale qui est censée intéresser tout le monde et en tout cas traiter de toutes les matières. Cette année on a discuter de la responsabilité des plateformes, évidemment, parce que c'est un sujet d'intérêt, notamment pour les titulaires de droits. Et peut-être que dans notre processus de sélection aussi, on se réfère à ce qui a été fait les années d'avant. Donc l'année d'avant, on avait traité des marques et d'Internet, réseaux sociaux. Il y avait un petit paragraphe sur les plateformes, mais qui n'était peut-être pas suffisamment détaillé. Et du coup, on a senti le besoin de traiter de cette question. Les résolutions de la IPPI, le processus, ça peut être un peu long, puisqu'il faut les sélectionner, on les choisit pour l'année d'après. Il y a un processus assez complexe. Donc c'est en même temps d'actualité et d'intérêt, mais ce n'est pas forcément l'actualité chaude.
Un des moyens aussi de tester un peu des sujets, c'est justement lors des congrès, toutes les conférences qu'on organise. On essaie de mettre à l'ordre du jour de ces conférences souvent des sujets qu'on peut pressentir pour des futures questions. Donc ça permet d'avoir un peu déjà un panel de personnes qui viennent de pays différents pour voir s'il y a des problématiques, si elles sont communes, si on pense qu'on pourrait peut-être arriver à une solution commune dans une résolution pas.
Et tous les groupes ont-ils l'obligation de participer à l'élaboration de toutes les résolutions, que ce soit pour la question transversale ou pour les sujets des standing committees, ou le choix leur reste libre de participer ou non?
Alors, en fait, il y a un processus un peu complet où il y a des summary guidelines. Ça fait partie du travail du rapporteur général. Et c'est sur la base de ces instructions que les groupes nationaux répondent. Ces instructions sont envoyées à tous les groupes et tous les groupes sont sollicités. Guillaume, tu sauras sûrement mieux que moi. Je pense qu'on a 35 rapports à peu près par question.
Entre 35 et 45, souvent, oui.
Vous avez anticipé ma prochaine question.
Pardon.
Il n'y a pas de problème. Comment se matérialisent, du coup, ces lignes directrices, ces guidelines? Est-ce que c'est des formes de questions? Est-ce qu'on délimite juste le scope du sujet?
Alors, les guidelines, donc, elles sont rédigées par l'équipe du rapporteur général au mois de novembre-décembre de chaque année pour le congrès de l'année suivante. Et le questionnaire, il a toujours exactement la même forme, c'est-à-dire qu'on a une introduction qui permet d'expliquer pourquoi on a choisi ce sujet, pour donner les principales définitions et pour donner la portée de la résolution, ce qui est dedans et ce qui est exclu.
D'accord.
Donc ça, c'est l'introduction. Et ensuite, il y a trois parties. La première partie, c'est sur les droits nationaux de chaque pays, où là, on pose une série de questions sur le contenu en fait, des règles, soit nationales, soit régionales. La deuxième partie, c'est sur la possibilité ou non, selon chaque groupe, d'améliorer leur droit national. Et la troisième partie, qui va être la plus importante pour la suite, c'est les règles d'harmonisation. C'est-à-dire, première question, est-ce que vous considérez que ce sujet devrait être harmonisé au niveau international? Et si oui, quel devrait être le régime? Et ce qui est extrêmement important, c'est que les deux premières parties, elles sont relatives aux législations nationales, droit positif et amélioration possible. La troisième partie, l'idée, c'est que les groupes nationaux et les juristes s'extraient de leur droit national. Parce que notre objectif, c'est d'essayer de proposer la meilleure règle possible, qui correspond évidemment, pas forcément, à la règle de droit positif dans son pays.
Et dans le parcours, le processus d'élaboration de ces rapports par les groupes nationaux, est-ce que vous, en tant que membre du programme committee et rapporteur général, avez un rôle consultatif auprès des groupes nationaux lors de l'élaboration de leurs rapports?
Pas du tout. Chacun des groupes nationaux est libre de travailler et chacun des groupes prépare d'ailleurs ses rapports de façon différente en fonction du nombre de membres, etc.
Non, on intervient assez peu à ce stade. Évidemment, s'il y a une question qui nécessite une clarification, on est au service des membres, mais l'idée, c'est que chaque groupe national travaille.
Très bien. Et comment sont désignées les personnes qui se chargeront de représenter le groupe pour telle ou telle question? Est-ce seulement sur la base du volontariat?
Alors, au sein des groupes nationaux, chacun des groupes fonctionne un peu différemment. En tout cas, au sein du groupe français, quand on reçoit les questions et le petit résumé sur les questions et ensuite les instructions de travail, les membres se portent volontaires ou en tout cas indiquent s'ils veulent travailler sur une question. Et sur la base de cette liste de personnes qui se sont portées volontaires, le bureau du groupe français désigne le président, le rapporteur, qui seront ensuite en charge d'animer le groupe de personnes qui s'est portée volontaire pour travailler sur la question.
Très bien. Et que deviennent les rapports nationaux une fois rédigés? Qui se charge de les recevoir et de traiter les différents rapports?
Donc les questionnaires, ils sont envoyés fin décembre, début janvier. Les groupes nationaux travaillent sur pour répondre aux questionnaires de janvier à peu près avril-mai. Et une fois qu'ils ont rédigé leur rapport, ils sont tous envoyés à l'équipe du rapporteur général.
Très bien.
Donc chacun d'entre nous, on est responsable d'une question. Et notre travail, qui se déroule souvent au mois de juin, c'est de préparer un rapport de synthèse de tous les rapports. Et donc là, on reprend exactement la structure du questionnaire. Et pour chaque question, on indique, pour telle question, 80% des groupes nationaux sont favorables à ce que, on élargisse la contrefaçon dans telle dimension, telle exception. Mmh. Et donc on essaie de trouver, à la fin de ce rapport, dans la conclusion, d'essayer de trouver quelle pourrait être, en fait, une éventuelle résolution.
D'accord.
Qui correspondrait, évidemment, à ce que pensent ou ce que veulent la majorité des groupes.
D'accord. Et quand intervient donc le study committee?
Alors le study committee, c'est après.
C'est encore après.
Voilà. Une fois qu'on a fait le rapport de synthèse au mois de juillet.
C'est un long chemin.
Il y a ce qu'on appelle le leadership committee qui se réunit et qui va comprendre 5 personnes de 5 nationalités différentes, qui ont en général des personnes qui ont rédigé ou participé très activement à la rédaction du rapport national. Donc durant l'été, ils se réunissent de manière virtuelle, évidemment, et le rôle de ce leadership committee, ça va être de préparer le premier projet de résolution, qui s'appuie évidemment sur le rapport de synthèse. Une fois que ce projet de résolution a été élaboré, il est envoyé à toutes les personnes qui vont être déléguées et on se retrouve au congrès.
D'accord.
À chaque fois le dimanche matin et éventuellement après-midi. Et là, c'est une sorte de comité restreint, en fait, qui va discuter du projet de résolution et qui va préparer le projet de résolution qui sera envoyé à l'Assemblée générale. Donc c'est vraiment un comité de travail. Il peut y avoir plusieurs personnes de pays qui viennent, mais il y a le principe dans ce study committee, ce comité de travail, c'est que chaque pays a une voix.
D'accord.
Et chaque pays peut proposer tous les amendements qu'il souhaite, et ça fait l'objet d'un vote.
C'est vraiment le moment où toutes les modifications sont apportées aux résolutions. Il y a un premier projet, mais il y a des discussions de fond importantes dans cette première journée, puisque tout le monde est libre de proposer des modifications, mais en général, c'est assez sur la substance et le droit et sur l'orientation du projet de résolution.
D'accord, donc ce sont vraiment des réelles discussions de fond et pas seulement une tentative d'extraction de l'idée majoritaire qui est ressortie du rapport de synthèse.
Non, 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 c'est vraiment des discussions de fond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive souvent qu'il y ait des propositions qui émergent, soit parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas participé dans son pays à l'élaboration du rapport, soit parce que son pays n'a pas rendu de rapport. Et donc, comme chacun peut proposer des amendements, l'idée, c'est évidemment de trouver un consensus. Mais par le vote et par le système des amendements, on peut vraiment creuser la substance de la matière.
D'accord. Donc tout ça, ce cheminement-là se déroule pendant le congrès annuel.
Absolument.
International. Très bien. Et donc après, qu'est-ce qu'il en ressort de ça, de cette discussion, des discussions sur les amendements?
Donc une fois que le comité de travail, le study committee, s'est réuni et a voté entièrement la résolution, elle est envoyée à l'Assemblée générale de la IPPI, et l'Assemblée générale va à nouveau discuter pendant entre 3 et 5 heures de la substance, à nouveau, de la résolution. Et là, chaque État peut proposer à nouveau des amendements sur le fond ou sur la forme à la résolution. La particularité, c'est que le vote est différent. Parce que dans le comité de travail, c'est une voix par pays. L'Assemblée générale, le nombre de voix de chaque pays dépend de l'importance de son groupe national. C'est la raison pour laquelle on retrouve parfois, et ça ça peut paraître étonnant au premier abord. On retrouve des amendements lors du comité de travail qui sont à nouveau proposés lors de l'Assemblée générale. Mais il y a une certaine logique puisque les règles de vote sont différentes. Mais ce double système de vote permet en réalité, c'est un peu un gage pour nous d'arriver à la meilleure rédaction possible.
Mmh. On a vu la salle de l'Assemblée générale, c'est assez impressionnant. Et arrive-t-on toujours à se mettre d'accord, à trouver un consensus, une position commune quand on est autant d'États et de nations dans une même pièce ?
L'idée, c'est effectivement d'arriver à une harmonisation et c'est une solution de consensus. Donc, pour que les résolutions soient adoptées, il faut qu'il y ait une majorité. Elle est toujours obtenue. Après, il y a des résolutions qui sont sans doute obtenues avec plus ou moins de votes et qui peuvent être plus ou moins discutées. Mais finalement, on a toujours un consensus.
D'accord.
S'il y a une opposition extrêmement forte des pays, en général, on ne va pas adopter ce paragraphe puisqu'il ne va pas passer, il va être refusé. Le processus de vote aussi de la résolution est assez complexe. En fait, on vote modification par modification et on adopte un paragraphe après l'autre, de sorte qu'il y a toujours quelque chose dans la résolution. Il est quand même rare qu'on trouve pas de consensus du tout.
Il n'y a jamais eu un congrès qui soit terminé sans
résolution. Non, dans le passé, il y a certaines résolutions qui n'ont pas été adoptées, mais c'était très rare. Et maintenant, on arrive toujours à un consensus, en fait, pour, je pense, deux raisons. La première, c'est que désormais, les législations en matière de propriété intellectuelle, par l'effet des conventions internationales, elles ne sont pas identiques. Hein, et parfois, elles sont même différentes. Mais il y a quand même une certaine proximité générale. Et la deuxième raison, ce qu'expliquait Léonore, c'est que, en fait, comme il y a un système de vote, en fait, le risque, c'est que si une résolution qui a été un peu difficile à adopter, bah, le niveau en fait, d'exigence va baisser. Elle va être un peu plus générale, un peu moins précise. On va donner un exemple, on va dire plutôt les États peuvent au lieu de les États doivent. Donc, vous voyez, c'est que le caractère normatif va un peu diminuer. C'est plutôt ça, en fait, qui se passe désormais.
Mais finalement, ça va peut-être enlever un peu de la force à la résolution.
Voilà,
finalement.
Forcément. Mais c'est le principe
du consensus.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment dans une enceinte où il faut négocier pour obtenir ce qu'on souhaite pour la communauté de la propriété industrielle ou intellectuelle, forcément, il y a toujours des compromis.
C'est un consensus, mais on est aussi une association extrêmement internationale. Donc, ce qui peut paraître comme n'étant pas très fort dans certains pays qui sont avancés dans leur législation sur cette question, peut au contraire être d'une grande aide pour d'autres pays qui n'avaient pas du tout de disposition. Donc, c'est ça qu'il faut aussi apprécier. Et ce qui est fort pour les uns peut paraître un peu inutile dans les autres, mais on doit oublier de raisonner au travers uniquement de son droit. Alors, il faut s'extraire de ça et se poser la question de quelle est la bonne règle.
La résolution de cette année, cinq résolutions, celle sur les plateformes, la responsabilité des plateformes en ligne lorsqu'elles proposent à la vente des produits de tiers, c'est un bon exemple parce que en Europe, on a une législation qui est déjà assez élaborée, mais en rédigeant le rapport de synthèse, j'ai constaté qu'il y avait certains pays dans lesquels il n'y en avait aucune. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jurisprudence, hein. Il y en a, mais il n'y avait pas de législation très structurée sur ce sujet.
Et que deviennent finalement ces résolutions ? Quel est l'impact de ces résolutions au sein des différents groupes ?
Alors, au niveau des groupes nationaux, les groupes peuvent décider différentes choses. En tout cas, au niveau du groupe français, on a l'habitude de distribuer ces résolutions auprès du CEPI, notamment auprès des juges, à l'INPI, dans différentes organisations, auprès des différentes associations sœurs. Également, et on présente en général ces résolutions aux magistrats lors d'une réunion. Donc il y a quand même un impact qui peut être important et intéressant selon les résolutions.
Et au niveau international, c'est assez similaire en fait, les résolutions. Ce qui est important, c'est que les résolutions, une fois qu'elles sont adoptées par l'Assemblée générale et validées par le comité exécutif, ça devient la position officielle de la IPPI. Et et on vous a décrit l'ensemble du processus qui est comme assez lourd. Et notre idée, c'est que c'est nécessaire d'avoir ce processus lourd pour avoir des résolutions qui ont du poids. Elles sont ensuite envoyées à certains gouvernements, mais ça c'est plus par l'intermédiaire des groupes nationaux, mais à tous les offices, par exemple, et qui peuvent les utiliser. L'OMPI, on va présenter à l'OMPI chaque année l'ensemble des résolutions. On va aussi à l'OEB, parfois à l'USPTO ou au Japon, pour leur présenter les résolutions. Et ces résolutions, je dirais qu'elles font un peu partie de la doctrine, pour moi. Et on les retrouve dans certaines décisions. Alors, moins en France, parce que c'est pas très usuel de citer des rapports de l'IPPI ou d'autres décisions de justice, d'ailleurs, dans un jugement. Mais, par exemple, cette année, il y a une décision assez importante de l'OEB qui a cité à plusieurs reprises la résolution, non seulement la résolution, mais aussi le rapport de synthèse et des rapports nationaux sur la question de la plausibilité.
D'accord. Ah oui, ça permet de voir que le travail porte ses fruits.
Il y a une certaine résonance.
Ou permet à tout le moins d'initier peut-être des travaux au niveau de l'OMPI ou des offices pour harmoniser un peu le droit de la propriété intellectuelle.
C'est ça. Je vous donne un autre exemple. À l'OMPI, il y a un processus diplomatique qui a été engagé pour adopter un nouveau traité sur les dessins et modèles. Donc, je crois qu'on vous a parlé dans un autre podcast.
Tout à fait.
Et là, la IPPI, qui est observateur permanent de l'OMPI, en fait, s'est appuyée sur des résolutions, sur différents sujets, comme par exemple la période de grâce, pour essayer de présenter de manière objective. Et c'est assez important parce que c'est un des... une des préoccupations, je crois, des membres de la IPPI, je parle de manière globale, de trouver un équilibre. Et c'est pour ça que les résolutions peuvent avoir une certaine résonance.
Est-ce que c'est déjà arrivé que d'autres institutions, l'OMPI ou les offices, sollicitent la IPPI justement sur un sujet en particulier pour que la IPPI se penche dessus?
Alors la IPPI...
ça se passe vraiment seulement en interne?
La IPPI intervient auprès d'un certain nombre d'offices et un certain nombre de membres va à l'UIPO, à l'OMPI, pour représenter la IPPI et porter la voix de la IPPI. La difficulté, c'est effectivement que c'est plus facile quand on a une position officielle de la IPPI sur un certain sujet.
Par exemple, sur les questions d'intelligence artificielle, à la fois en droit d'auteur et en droit des brevets, et on n'a pas une demande officielle des offices de traiter cette question, mais c'est parce qu'on est en relation constante avec eux qui nous ont dit est-ce que vous avez travaillé sur ces sujets, parce que nous ça nous pose problème. Ils nous ont fait comprendre que ça pourrait être intéressant que l'IPPI s'intéresse à ces sujets, en fait.
Oui, donc c'est pas des sollicitations claires, mais
non. Et si on reprend l'histoire de l'IPPI, l'association a été créée il y a un certain temps, puisque c'était en 1897.
Oui.
Et la création de l'IPPI, de 1897, je pense, jusque pendant à peu près un siècle, ou un peu moins, l'IPPI avait un rôle tout à fait particulier. Pourquoi ? Parce que c'est l'IPPI qui a accompagné l'évolution de la Convention de l'Union de Paris, la dernière conférence diplomatique qui a modifié la Convention de l'Union de Paris, c'est Stockholm en 1967. Et à chaque fois, l'OMPI est l'ancêtre de l'OMPI, le BIRPI. Quand il voulait organiser une conférence diplomatique pour modifier la Convention de l'Union de Paris, avant, il faisait appel à l'IPPI en disant « Ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un consensus ?» Donc l'IPPI faisait le travail qu'on vous a décrit, de questionnaires, etc., et ressortait une résolution et qui disait, c'est à cette occasion parfois qu'il n'y avait pas de résolution, on disait, oui, on pense qu'il pourrait y avoir une harmonisation et ça pourrait être dans ce sens, ou au contraire, c'est arrivé en disant, là, on ne pense pas qu'une harmonisation soit possible. C'était il y a un certain temps. Maintenant, tous les pays sont quand même plutôt équipés en matière de législation sur la propriété intellectuelle. Et il y a une certaine harmonisation en raison d'abord de la Convention de l'Union de Paris, puis aussi des ADPIC, évidemment.
Et pensez-vous qu'un jour, le droit de la propriété intellectuelle sera peut-être complètement harmonisé et que l'IPPI n'aura plus de raison d'être ?
C'est
question piège.
Ouais, c'est ça. Non, c'est... Ben, ce serait bien, moins bien pour la IPP, mais ce serait bien, parce que c'est le fondement même de l'existence de la IPPI. Après, moi j'ai un peu des doutes parce que le droit de propriété intellectuelle, c'est quand même, ça touche quand même au droit de propriété. Les créations immatérielles, c'est quand même de plus en plus important. Donc je ne pense pas qu'on arrive à un régime totalement harmonisé. Et même si ça devait être le cas d'ailleurs, la IPPI pourrait toujours avoir un rôle parce que même si on a le même texte, on sait bien qu'il peut être interprété de manière différente. Donc voilà, on aurait toujours un rôle d'essayer d'harmoniser non plus la législation, mais la jurisprudence.
Oui, donc la IPPI a encore de beaux jours devant elle. Peut-être, je ne sais pas si je peux vous poser cette question ou si j'ai le droit de vous la poser, mais est-ce qu'on a déjà une idée d'une question qui pourrait, une question transversale qui pourrait sortir pour l'année prochaine ?
Pour l'année prochaine, donc il y a évidemment 4 questions. La première en matière de brevets. C'était « Harmonization of Disclosure Requirements and Consequences of Non-Compliance ». Ça, c'est donc la question de brevet. Et l'objectif, c'est de travailler sur l'obligation ou pas, pour le déposant d'un brevet, de divulguer à l'office lui-même l'art antérieur. Ce qui existe aux États-Unis et dans certains autres pays, mais qui n'existe dans la majorité des pays, n'a jamais adopté cette règle. En matière de marque, c'est « conflicts between composite trademarks, including non-distinctive terms ». Donc ça, c'est sur les marques composites qui comportent un ou plusieurs éléments qui sont non-distinctifs. Et la question, c'est quels doivent être les critères pour accepter ou pas l'enregistrement une telle marque. La troisième question de droit d'auteur, ça, c'est « defense of parody in copyright ». Donc ça, c'est l'exception de parodie, qu'Éléonore connaît bien. Et puis, la dernière question transversale, c'est « Unjustified allegation of infringement of IP rights ». Donc ça, c'est évidemment, vous avez compris, quelqu'un qui est le titulaire d'un droit, ça peut être n'importe quel droit, il va prétendre qu'un tiers contrefait ses droits, qu'il est contrefacteur, avant ou après ou pendant un procès. Et donc là, quelles devraient être les conséquences d'une telle allégation ?
D'accord. Bon, de belles discussions en perspective. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en discuter une nouvelle fois sur le réseau de R2PI. Merci à vous deux pour cette émission très intéressante. Bonne fin de congrès. Donc le congrès touche à sa fin, je crois. C'était aujourd'hui. Ce soir, c'est le closing dinner. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact@gmail.com. À la semaine prochaine.